This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Bethléem pour la 5e édition du Marathon de la Palestine. Nous serons également en direct de Berlin, campagne pour les législatives allemandes qui s'accélère. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier sur le Brexit. Compte à rebours, vous le savez, officiellement enclenché aujourd'hui. Mais d'abord, un petit tour d'Europe des systèmes de santé.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
Ça ne vous aura pas échappé, tous les candidats à la présidentielle ici en France nous parlent de santé, chacun y allant de sa proposition, les uns pour sauvegarder notre sacro-saint modèle français, les autres pour le réformer et d'autres encore pour totalement le modifier. Mais comment font nos voisins européens? L'herbe est-elle plus verte devant un hôpital anglais ou italien? Eh bien on compare ce soir avec les correspondants de France Inter et on en parle avec un spécialiste des politiques de santé. Bonsoir Bruno Palier.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Chercheur en sciences politiques au CNRS et à Sciences Po, auteur entre autres du Que sais-je, la réforme des systèmes de santé. D'abord Bruno Palier, le système de santé à la française est-il une exception européenne? Et si oui, en quoi?
Non, c'est pas une exception européenne. En gros, en Europe, il y a deux grands types de systèmes de santé. Il y a les systèmes d'assurance maladie, comme le système français, mais dont on va retrouver les principes d'organisation en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique. Et puis, il y a d'autre part les systèmes nationaux de santé qui ont, soit après la Seconde Guerre mondiale pour la Grande-Bretagne, ou un peu plus tard, dans les années 50 ou 60, voire les années 70 pour l'Europe du Sud, décidé de créer un service public de santé, où là, le financement est assuré par l'impôt, par l'État. C'est un système beaucoup plus organisé par l'État, beaucoup plus, on le verra sans doute, égalitaire.
De fait, on va s'arrêter sur plusieurs modèles. Ouais.
Voilà. Mais donc en France, ça n'est pas unique. Il y a des spécificités, bien sûr, mais l'idée que l'on démarre avec, à l'origine, un système de remboursement pour couvrir les frais, avec un système qui couvre aussi nos salaires quand on est malade, c'est ça l'origine de notre système d'assurance maladie. Et c'est assez similaire en Allemagne, même s'il y a des différences. Par exemple, le rôle joué par les mutuelles qui est beaucoup moindre en Allemagne qu'en France.
Vous qui étudiez justement tous les modèles chez nos voisins, quel regard l'Europe porte-t-elle sur notre système à nous? Est-ce qu'on nous envie? Est-ce que parfois on nous moque?
Alors, souvent on joue le jeu des classements mondiaux des systèmes de santé en disant quel est le meilleur ou le moins bon. Le problème, c'est que dans un système de santé, on cherche à faire plusieurs choses en même temps, à courir plusieurs courses en même temps, et c'est difficile d'être le premier à toutes les courses. Si on regarde de façon comparative, et c'est par exemple ce que peut dire l'OCDE, ce que peut dire l'Organisation Mondiale de la Santé, la France est plutôt bonne pour ce qui est de la liberté des patients. On a encore la possibilité de choisir son hôpital, de choisir son médecin, d'en changer, même si c'est de plus en plus compliqué.
Ce n'est pas le cas où, ailleurs?
Alors, par exemple, en Grande-Bretagne, vous choisissez votre médecin, mais c'est lui que vous devez aller voir d'abord, votre general practitioner, l'omnipraticien, et vous ne pouvez pas en changer pendant 6 mois. De même, en Suède, vous devez aller dans un centre de santé de votre circonscription. Si vous voulez aller ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on a une liberté de choix, même si elle est un peu contrainte aujourd'hui en France, beaucoup plus grande. La deuxième chose, c'est qu'on a une réactivité du système, une certaine qualité des soins qui est assez élevée. Troisième caractéristique positive de notre système, c'est qu'on est plutôt très bien couvert quand on est très malade. C'est les affections de longue durée. À l'inverse, on a un système plutôt coûteux, parmi les plus coûteux d'Europe. On a un système qui, s'il couvre très très bien quand on est très malade, le système public ne couvre pas très bien quand on est malade, donc on est obligé d'avoir une mutuelle, ce qui introduit pas mal d'inégalités. Parce que les mutuelles, ça coûte cher, parce que ça sélectionne le risque. Et enfin, on a de fortes inégalités territoriales, les fameux déserts médicaux, que l'on ne va pas forcément avoir dans un système national régulé.
Et on va voir que ça existe ailleurs. Alors, je vous propose donc un premier comparatif, Bruno Palier, direction le nord de l'Europe. Plus précisément, vous l'évoquiez, la Suède, la Finlande et le Danemark. 3 pays qui ont donc des systèmes de santé relativement similaires, largement financés par les fonds publics, très décentralisés. Je vous donne 3 chiffres hein, fournis par Eurostat. Les dépenses de santé en Finlande, c'est 9,5% du PIB, 10,4% pour le Danemark et 11% pour la Suède. Bonjour Anne-Françoise Hiver, en direct de Malmö.
Bonjour Mickaël.
Alors dans les grandes lignes, Anne-Françoise, comment fonctionne la santé dans ces 3 pays?
Alors autant en Suède que chez ses voisins danois et finlandais, le système de santé repose sur plusieurs principes fondamentaux. Le premier, c'est une couverture et un accès aux soins universels avec un financement qui repose essentiellement sur l'impôt. Les enfants, par exemple, y sont soignés gratuitement jusqu'à leurs 18 ans. Pour les adultes, cela varie. Au Danemark, les soins de base ne coûtent rien. En Suède, la visite médicale est facturée une vingtaine d'euros. Au-delà de 110 euros, les soins sont gratuits pendant les 12 mois restants. Autre caractéristique de ce système, une prédominance du secteur public avec une structure très décentralisée au niveau des régions en Suède et au Danemark, de la commune en Finlande. Enfin, on assiste depuis une dizaine d'années à l'arrivée de nouveaux acteurs. Si l'hôpital reste public, en Suède et au Danemark notamment, les centres de soins primaires se sont en partie privatisés. Mais dans le cadre de contrats passés avec la région, les tarifs restent donc identiques à ceux du public. Ces centres de soins sont d'ailleurs financés par les pouvoirs publics en fonction du nombre de patients qu'ils reçoivent.
Bon, et du coup, Anne-Françoise, quel est le bilan du système ?
Eh bien, il est mitigé, Michael. D'abord parce que la décentralisation a entraîné un accès inégal aux soins. La qualité varie d'une région à l'autre entre les centres de soins. Autre problème, de très longues files d'attente dans les hôpitaux notamment. Il faut parfois patienter des mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Du coup, on voit se développer des systèmes d'assurance privée qui proposent de dépasser tout le monde et de se retrouver au début de la file d'attente, mais faut-il encore payer ? En Suède, enfin, et il s'agit sans doute d'une des questions politiques les plus controversées du moment, se pose le problème des profits réalisés par des entreprises privées qui gèrent les centres de soins et sont financées par l'argent du contribuable. Une commission d'enquête nommée par le gouvernement propose de les limiter. De très nombreux acteurs privés ont déjà fait savoir qu'ils seraient alors obligés de mettre la clé sous la porte, ce qui pourrait mener à une crise grave puisque 44% des Suédois consultent désormais dans le privé.
Anne-Françoise Hiver, correspondante de France Inter à Malmö en Suède, merci. Bruno Palier, réaction ? On voit que le système scandinave n'est pas aussi parfait que certains ici en France le disent.
Ce qui s'est passé, c'est que face au mécontentement notamment des classes moyennes et supérieures de devoir attendre, les gouvernements plutôt de blocs bourgeois, enfin de droite, ont introduit la possibilité de court-circuiter le système public en créant ce privé. Une fois installé, c'est difficile de s'en débarrasser et ça crée des inégalités. Donc là, il y a un des premiers arbitrages à mener dans les systèmes de santé entre l'égalité, traiter tout le monde de la même façon, et la réactivité, la capacité à répondre vite à toutes les demandes. Et en France, on a favorisé cela, mais on a plus d'inégalités. Et en Suède, quand ils ont cherché à favoriser de répondre plus vite depuis une quinzaine d'années, bien, on a effectivement ce mécanisme d'inégalité qui s'accroît.
Et c'est quand même surprenant de la part de pays qu'on juge en général égalitaristes. En tout cas, c'est le modèle qui est prôné. Là, on voit clairement qu'on se dirige vers une médecine à deux vitesses, y compris là-bas.
Alors, il faut comparer les choses, c'est-à-dire que si vous n'acceptez pas de payer des consultations privées en France ou si vous habitez dans le nord de la France, vous devez aussi attendre des mois. C'est-à-dire que la médecine à deux vitesses, elle existe aussi en France. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer une bonne mutuelle ou une mutuelle tout court, on est aussi extrêmement pénalisé en France. Donc, ne pensons pas qu'on n'a pas de médecine à deux vitesses en France, on l'a aussi.
Non,
en
revanche, le dit
aussi. Effectivement, je dis, c'est la révolution du choix qu'ils ont fait en Suède, aussi bien dans le domaine scolaire que dans le domaine de la santé, qui a offert la possibilité au secteur privé de fournir des soins spécifiques dans des centres de santé spécifiques, même chose pour les écoles, et ça crée des inégalités, en particulier dans en matière de santé, puisque vous pouvez prendre une assurance privée.
Inégalité et polémique, parce que c'est la polémique politique du moment en Suède, hein. Ces entreprises privées qui gèrent des centres de soins, mais avec tout ou partie d'argent du contribuable directement.
Alors, encore une fois, en France, tous les médecins de ville se disent privés et sont rémunérés par la sécurité sociale, c'est-à-dire par de l'argent public. Donc là, c'est la même chose, si vous voulez, sauf que quasiment tous les médecins français sont en ville privée, alors que c'est une partie seulement des centres de santé qui sont privés en Suède. Mais effectivement, la Suède s'est rapprochée de la France, si vous voulez, au cours des 10-15 dernières années, avec peut-être les avantages pour ceux qui ont les moyens de payer, c'est-à-dire attendre moins longtemps, mais aussi les inconvénients sociaux sociaux que l'on connaît bien en France, qui sont les inégalités d'accès au système de santé, qui se traduisent par de très fortes inégalités d'espérance de vie notamment. Et là, pour le coup, la France est parmi les champions d'Europe, puisque l'espérance de vie est différente entre un cadre et un ouvrier en France de 7 ans à peu près. Et ça, c'est un des écarts d'espérance de vie en défaveur des ouvriers les plus élevés d'Europe.
Deuxième comparatif, Bruno Palier, on file au Royaume-Uni. Bonsoir Marie Vivant, en direct de Londres.
Bonsoir.
Alors l'une, voire la principale particularité du système de santé britannique, le NHS, c'est qu'il est quasiment gratuit, Marie.
Oui, depuis sa création en 1948. Alors au départ, le National Health Service, le NHS, offrait une couverture médicale entièrement gratuite pour tous. Depuis, il y a eu quelques modifications. Aujourd'hui, la consultation chez le médecin généraliste et les soins à l'hôpital sont toujours gratuits. Ce qui est payant, ce sont les soins chez un spécialiste comme le dentiste ou l'ophtalmo. Et pour avoir accès au NHS, c'est très simple. Toute personne résidant au Royaume-Uni y a droit, qu'on soit britannique ou étranger.
Est-ce que le système se porte bien aujourd'hui ?
Non, il est en fait au bord du gouffre et pour plusieurs raisons. D'une part démographique, le vieillissement de la population et la croissance démographique. D'autre part parce que le NHS est financé par l'État qui a mis en place des politiques d'austérité. Et puis il existe aussi de nouvelles formes de traitement qui sont plus coûteuses que lors de sa création. Aujourd'hui donc les services ne suivent plus. Il faut compter par exemple 4 à 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le kiné. Et surtout les hôpitaux sont engorgés. La Croix-Rouge décrit carrément une crise humanitaire. Il manque des médecins, des ambulances, des lits. En janvier dernier, une photo ici a fait le tour du web, celle d'un petit garçon de 22 mois vêtu seulement d'une couche. Et faute de lit à l'hôpital, il dormait sur une couverture posée sur 2 chaises en plastique. Et selon ses parents, alors qu'on le suspectait d'avoir une méningite, leur enfant a attendu 5 heures aux urgences avant de voir un médecin.
Bon, et on imagine que là aussi, il y a un moyen d'éviter ces longues phases d'attente, non ?
Oui, et là encore avec des assurances santé privées qui se sont développées ces dernières années face à cet engorgement. Leur point fort, c'est qu'elles permettent de consulter rapidement un médecin spécialiste privé. Donc c'est le choix de beaucoup de Britanniques qui doivent régulièrement consulter un spécialiste. Évidemment, là encore, ça a un coût. À Londres, par exemple, un rendez-vous avec un spécialiste privé coûte entre 80 et 300 livres, donc jusqu'à 345 euros. Et ces assurances privées sont plus chères que les mutuelles en France.
Dernière question, Marie. Évidemment d'actualité, Theresa May a activé aujourd'hui le fameux article 50, ce qui lance officiellement le Brexit. Et le système de santé était justement au cœur de la campagne.
Oui, les partisans de la sortie de l'UE avaient promis lors de la campagne de renflouer les caisses du NHS avec l'argent qu'il n'y aura plus à envoyer à Bruxelles. Mais dans la pratique, ça s'avère quand même plus compliqué. Le déficit du système de santé britannique est estimé à 30 milliards de livres, plus de 34 milliards et demi d'euros d'ici à 2020. Le personnel de santé et la population craignent donc, malgré les promesses des coupes budgétaires, des fermetures d'hôpitaux et même des privatisations. Au début du mois, plusieurs milliers de personnes ont à nouveau manifesté à Londres pour défendre leur système de santé.
Marie Vivant en direct de Londres, merci. Bruno Palier, un système qui au départ est assez proche du système français. Là, les mots sont forts, on est au bord du gouffre, la Croix-Rouge parle de crise humanitaire.
Alors, le système anglais est vraiment pas proche du système français, excusez-moi.
Je parlais dans sa conception
initiale. Dans sa conception, non, justement, en 45, sur la recommandation du rapport Beveridge, on décide en Angleterre d'en faire un service public. C'est-à-dire, c'est le ministère de la Santé qui décide où est-ce qu'on met les hôpitaux, combien on paie les médecins. Tout est gratuit pour les patients et financé comme l'école, si vous voulez. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des débats en France après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on fait comme les Anglais ? Et là, beaucoup d'acteurs, y compris étatiques, disent non, parce qu'on sait très bien que le danger de ce système-là, c'est d'être soumis à la contrainte budgétaire. C'est ce qui vient d'être
décrit. Mais sur la gratuité ?
Alors, sur la gratuité, c'est bien plus fort là-bas que chez nous. Là-bas, c'est vraiment gratuit. Vous allez chez le médecin, vous payez absolument rien. Vous allez à l'hôpital, vous payez absolument rien. Nous, c'est pas gratuit. On paye le ticket modérateur, plus ou moins remboursé par les mutuelles, et ça depuis le début. Mais on n'a pas voulu aller vers ce système-là, justement pour pas être sujet à la contrainte budgétaire quand un gouvernement décide de faire des coupes, comme le gouvernement Cameron l'a fait il n'y a pas très longtemps pour réagir à la crise financière, ou comme Thatcher l'avait fait dans les années 80. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement du côté social, vous avez un système totalement gratuit, sans barrière d'accès au système. Mais si on n'y met pas les moyens, c'est ce qu'on a appris au cours des 20 dernières années pour la Grande-Bretagne, et bien vous retrouvez avec des catastrophes telles qu'on vient de les décrire.
On a quand même l'impression, et d'ailleurs qu'on soit pour ou contre, que cette privatisation des soins a quelque chose d'inéluctable. Arrive un moment où les fonds publics suffisent plus.
La question, c'est la volonté de payer. Visiblement, les gens préfèrent payer de leur poche pour eux-mêmes que de payer des impôts pour un système collectif. Mais de toute façon, on paye. C'est-à-dire que quand on privatise, ça veut dire qu'il faut se payer une assurance privée. En France, il faut se payer des mutuelles, il faut payer un surcoût dessus ou sous la table pour avoir des rendez-vous plus vite. L'arbitrage, c'est plutôt que d'avoir à faire ça, ce qui crée des inégalités, bien évidemment, puisque ne peuvent accéder plus vite que ceux qui ont les moyens, c'est de demander à tout le monde de payer des impôts ou des cotisations sociales pour garantir le même accès à tous. Il semblerait qu'il y ait une limite là. Alors là, on parle de est-ce qu'on paye des cotisations et le coût du système. On ne se demande pas assez, je crois, les gains d'efficience que l'on peut faire. Vous citiez le pourcentage du PIB dépensé. La France est quand même un petit peu au-dessus de tout ça, hein, 11,5% de PIB. La Suède, avant de mettre du privé, était à 9%. Et comment ils faisaient? Ils organisaient mieux le système. C'est-à-dire que dans ces pays-là, il y a des centres de système, des centres de santé avec plusieurs prestataires. Là, vous pouvez faire vos radios, vos examens, vous avez un généralisme, vous avez aussi des infirmières, etc.
Système qui est aussi en train de se développer ici.
Alors
en France.
Ça, c'est ça, si vous voulez. Quand on compare les systèmes nordique et britannique avec la France, vous apercevez que eux nous copient, c'est ce que je vous ai dit, hein, la Suède se rapproche de la France, et nous on cherche à les copier, c'est-à-dire qu'on fait un parcours de soins, on essaye de développer les centres de santé intégrés, on essaye de copier les meilleures choses qu'ils ont là-bas, c'est-à-dire l'intégration et le suivi des patients, si possible le partage des données, de façon à mieux organiser notre système de santé et donc avoir des progrès en termes de soins, mais aussi que ça coûte un peu moins cher.
Allez, troisième halte, Bruno Palier, on parle maintenant en Italie. Bonsoir Mathilde Imberti en direct de Rome.
Bonsoir à tous.
Alors pour l'instant Mathilde, l'Italie réussit à maintenir un système de santé public, on va dire, plutôt efficace.
Oui, selon l'indice de la santé de Bloomberg publié ce mois-ci, le système de santé italien est classé 3e mondial en termes d'efficacité et 1er en Europe. Il est vrai que les Italiens vivent toujours plus longtemps. L'espérance de vie atteint 83 ans ici. Les centenaires fleurissent. Alors grâce à la fameuse diète méditerranéenne, certes, mais aussi, analyse des experts, grâce à un bon suivi médical. Le système national de santé italien, né en 1978, offre un accès gratuit et universel aux soins. Les Italiens doivent se choisir un médecin traitant généraliste et peuvent dans les structures régionales de santé avoir accès aux spécialistes. Ils payent un ticket modérateur, une vingtaine d'euros environ, et se font rembourser avec leur déclaration d'impôt. Alors, le système de santé italien est bien classé aussi parce qu'il est à l'équilibre financièrement. L'Italie consacre 9% de son PIB à la santé. C'est moins qu'en France, surtout parce que les Italiens se font moins hospitaliser que les Français.
Et malgré tout, Mathilde, évidemment, le système italien présente aussi quelques défaillances.
Oui, les délais avant d'avoir accès à un spécialiste peuvent être longs ou pour des examens comme les IRM, il faut parfois attendre des mois. Du coup, le privé, là aussi, prend la relève. Les Italiens qui le peuvent déboursent 2, 3, 400 euros parfois pour avoir accès aux bons spécialistes. Et ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien, doivent s'en passer. On estime qu'aujourd'hui que 20% des dépenses de santé restent à la charge des individus, ce qui est finalement très peu par rapport à d'autres pays. Du coup, les mutuelles ne sont pas loin de là généralisées en Italie. Rien à voir de ce côté-là avec les situations françaises. Et puis, autre écueil du système, eh bien, le manque de structure pour accueillir les personnes âgées dépendantes. L'Italie est moins bien équipée que la France de ce point de vue-là et pourtant la plus concernée en Europe par le vieillissement de sa population.
Et dans la santé comme dans d'autres domaines, hein, l'Italie souffre de l'éternel fossé entre le nord et le sud, Mathilde.
Absolument. L'État assure une répartition financière équitable sur tout le territoire, mais les structures médicales publiques sont gérées par les régions. La qualité des médecins qui exercent est très variable. L'état général des hôpitaux l'est aussi. Les régions de Toscane, Émilie-Romagne, Vénétie sont à la pointe. D'où ce phénomène de tourisme médical qui se développe en Italie, des malades du sud qui viennent se faire soigner plus au nord.
Mathilde Imberti, en direct de Rome. Merci Mathilde. Bruno Palier, comment vous recevez cet exemple italien?
C'est un autre exemple de système national de santé qui, dans votre reportage, apparaît meilleur que les autres. Moi, j'ai d'autres données qui montrent
Allez-y.
Non, mais vous avez des inégalités d'accès au système, vous avez un sous-développement d'un certain nombre de technologies, une absence de prise en charge qui n'apparaît pas ici. Le point surtout, je crois, qu'il faut faire, c'est que une des explications des augmentations récentes très fortes des dépenses de santé en France France, mais encore plus en Suède, c'est la prise en charge de la dépendance, où beaucoup de gens se retrouvent à l'hôpital, etc. Il y a une pratique italienne qui est beaucoup plus de rester à la maison, de charger les familles, si vous voulez, de ce genre de choses, qui peut expliquer le fait qu'il y a un peu moins de prise en charge ici. Hein. Une des questions qui va devenir de plus en plus centrale, c'est comment on accueille les personnes âgées très dépendantes, qui sont pour autant pas forcément malades, mais qui sont totalement non autonomes, et on les retrouve souvent, trop souvent, à l'hôpital, dans le système de soins, parce qu'on n'a pas mis en place les structures d'accueil. Dans les comptes nordiques, on met en partie cela que l'on ne met pas complètement en France et qu'on met quasiment pas du tout en Italie.
Vous disiez sous-développement technologique en Italie.
Non, pas sous-développement, mais si vous comparez, parlez à des chirurgiens français ou italiens et leur demandez-leur où est-ce qu'ils préféreraient travailler. Alors, sous-développement, c'est trop fort, c'est à l'oral comme ça, je vous dis ça. Mais je pense qu'il ne faudrait pas faire croire que de votre tour d'horizon d'Europe, l'Italie a le meilleur système de santé d'Europe. Je ne sais pas pourquoi Bloomberg voudrait nous le faire croire, mais
voilà, c'est pas ce qu'on lit forcément. Troisième en termes d'efficacité.
Alors, en termes d'efficacité, donc. Voilà, c'est qu'on peut soigner sans les hautes technologies, mais il y a aussi des complaintes par rapport aux équipements, par rapport aussi à la surcharge de travail. Il y a des files d'attente aussi en Italie. Cela dit, c'est un système en ville qui est beaucoup plus souple, puisqu'il y a des centres de santé, des médecins de ville, et qui sans doute permet d'accueillir mieux les gens de ce point de vue-là.
Plusieurs questions courtes. On parle évidemment très souvent des déserts médicaux en France. Qu'en est-il ailleurs en Europe ?
Bien, il y en a dans le grand nord des pays nordiques. Il y en a dans certaines régions d'Angleterre, mais on le vit très mal en France parce qu'en fait, on ne manque pas de médecins. C'est juste qu'il y a beaucoup de médecins à certains endroits et très peu à d'autres. Et ça, c'est lié à une caractéristique française, c'est la totale liberté d'installation. Donc, les médecins français vont là où ils le souhaitent, ils vont plutôt là où il y a du boulot, où il y a des patients qui peuvent payer des dépassements d'honoraires, etc. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis parmi les médecins libéraux, mais bon, c'est une habitude à prendre. Il y a liberté d'installation en France, ce qui n'est pas le cas dans aucun autre pays européen. Et du coup, vous avez l'incapacité des gouvernements depuis 30 ans d'arriver à organiser l'installation des médecins de façon à mieux couvrir le territoire. Pour vous donner un chiffre, on a 3,3 médecins pour 1000 habitants en France, ce qui est au-dessus de la moyenne de l'OCDE, et il y en a un petit peu moins en moyenne en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne. Et donc, on ne manque pas de médecins en moyenne, on manque de médecins sur certains territoires parce qu'on n'arrive pas à les y faire aller.
En 20 secondes et après ce tour d'Europe absolument pas exhaustif, on n'est pas si mal que ça en France.
On n'est pas si mal que ça n'oubliant pas que notre système génère des inégalités. Parce que si on fait moins le cas des files d'attente, c'est parce que ceux qui sont les plus à même de protester et de ne pas être contents, les classes moyennes et supérieures, n'ont pas à attendre parce qu'ils ont une bonne mutuelle, parce qu'ils sont prêts à payer les dépassements d'honoraires. Et c'est ça qui permet de couper les files d'attente. C'est ça que sont en train de découvrir les Nordiques. Mais nous, ça existe depuis les années 50. Il y a de fortes inégalités au sein de notre système.
Merci infiniment, Bruno Palier, chercheur en sciences politiques au CNRS et à Sciences Po, auteur, entre autres, de ce que sais-je, la réforme des systèmes de santé. Dans un instant, direction Kaboul. Mais d'abord, Tracy Chapman, Talking About Revolution.
Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run. Run, 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 run.
Those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know?
Talking about revolution, Tracy Chapman.
7 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, avec vous Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Mickaël.
Et l'Afghanistan ce soir, retour sur un acte terroriste commis dans un hôpital de Kaboul il y a 3 semaines.
Ce jour-là, un cap supplémentaire a été franchi dans la barbarie, Michael. Une attaque coordonnée par 5 membres d'un commando islamiste, explosifs, armes à feu, armes blanches contre des civils et du personnel humanitaire. Un bilan très lourd, 63 morts et presque autant de blessés. Nous évoquons de nouveau cet attentat ce soir car nous avons pu rencontrer le médecin français fondateur de l'ONG Chaîne de l'Espoir en Afghanistan. Éric Chessou est aussi chirurgien à l'hôpital de Pontoise. 10 jours avant l'attaque, il était à Kaboul dans cet hôpital pour remettre un diplôme à 4 chirurgiens afghans, 2 hommes, 2 femmes qui ont trouvé la mort pendant l'attaque.
Si vous voulez, d'abord, je tiens à vous dire que je suis ému. J'ai même du mal à trouver mes mots. Mais là, est-ce que vous imaginez un hôpital, 5 personnes, je les qualifie comme ça, rentrant avec des blouses blanches et avec des sacs, comme on aurait les sacs pour les premières interventions, type SAMU. Et donc, ils franchissent les différents checkpoints. Un se fait sauter et ensuite, pendant plusieurs heures, 7, 8, 9 heures, c'est un massacre total dans cet hôpital militaire. 400 lits où beaucoup de patients civils, les familles, les accompagnants sont là. Et pour moi, c'est une boucherie à la grenade. Une grenade mise sous le lit d'un patient en traction, c'est-à-dire par exemple qu'il y a une fracture du fémur. C'est une boucherie au couteau, à la baïonnette, à la kalachnikov. Et donc on massacre des patients, des médecins, 13 médecins paramédicaux, décapités, coupés les mains. Et cette chasse aux patients, cette chasse aux brancardiers, cette chasse à l'infirmière, des amis, des confrères, parce que ce sont mes amis, ce sont mes confrères en Afghanistan, j'y vais depuis les années 80, décrivent ça, décrivent les hurlements des gens, les hurlements des patients sur 6 étages, passés les uns après les autres, le scanner détruit, l'IRM détruite. Si vous voulez, c'est même pas une colère, c'est « mais où peut-on aller au-delà ?» Alors des hôpitaux, on en a vu bombarder, je pense bien sûr à mes amis de MSF, à Kunduz, au Yémen, bien sûr en Palestine, bien sûr, mais une attaque d'un hôpital programmé avec cette folie meurtrière. Alors, quel mot on peut employer ? Inhumanité ? Au nom de quoi ? Soyons bien conscients tous, nous avons franchi là l'indicible. Je vous assure, c'est une date dont il faudra se souvenir. C'est un dépassement dans l'horreur de ce que sont capables de commettre les êtres humains entre eux.
Éric Chessou, chirurgien fondateur de l'ONG Chaîne de l'Espoir en Afghanistan.
Et direction maintenant Bethléem, Olivier, pour évoquer la 5e édition du Marathon de la Palestine, événement qui a radicalement changé d'identité.
Événement très populaire puisque des milliers de coureurs sont attendus dans 2 jours sur ce parcours qui longe le mur de la séparation et passe par 2 camps de réfugiés, mais un événement qui a quelque peu échappé à ses organisatrices. Au départ, il y a 5 ans, cette idée un peu folle a été importée par 2 amies danoises. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Olivier.
Correspondant de France Inter à Jérusalem, ce marathon donc, Étienne, est au départ une belle histoire qui a connu d'emblée un franc succès.
Oui, ça se mesure l'an passé à l'ambiance et à la fréquentation, près de 4500 coureurs, beaucoup d'internationaux et une couverture médiatique qui mobilise entre autres CNN et Al Jazeera. Ce marathon, c'est l'histoire d'un projet conçu à l'étranger qui s'enracine en Palestine. Il est porté par 2 Danoises qui ont l'idée d'organiser une course longue distance dans un pays dont l'une des caractéristiques principales est la contrainte des déplacements. C'est d'ailleurs une revendication, l'association des des Danoises s'appelle Right to Movement, le droit au mouvement. L'édition 2016 est un grand succès. Le rendez-vous s'est imposé comme une date phare dans la cité touristique de Bethléem, explique Fadi Khatam, patron du très bel hôtel Ocha Syrian.
Aujourd'hui à Bethléem, les grandes périodes d'affluence de touristes, c'est Noël, Pâques et le marathon. Pour les hôteliers de la ville, c'est vraiment l'instant où on sait qu'on est tous pleins. Pendant la période de marathon, on a une clientèle beaucoup plus jeune, beaucoup plus accès sport. Donc ça crée vraiment un dynamisme dans la ville très différent de toutes les autres périodes d'affluence de touristes dans la ville.
Alors le problème, Étienne, c'est que cette année, l'association des fondatrices du marathon a disparu de l'organisation.
L'an dernier, elles avaient passé le manche à des Palestiniens. Comme chaque année, ils avaient eu le soutien du Comité olympique de Palestine pour organiser la course. Mais cette année, le Comité olympique fait cavalier seul. L'association a été écartée de l'organisation des accords sur le fond, dit George Zeidan de Right to Movement.
Le comité olympique palestinien nous a demandé de changer certaines règles et certaines choses dans l'organisation. Ce n'était pas ce qu'on souhaitait, nous n'étions pas d'accord. On a toujours conçu ce projet comme quelque chose qui soit apolitique, pas gouvernemental, comme une initiative de la jeunesse, et on voulait garder cette image, donc on ne peut pas s'entendre.
En Palestine, le comité olympique est une institution. Il est dirigé par l'un des hommes les plus influents du pays. Il récupère la course au moment où elle devient un événement. Ce marathon est une propriété nationale, explique Eitidal Ismaël, qui gère maintenant l'organisation de la course pour le comité olympique palestinien.
On n'a pas le droit de dire que ce marathon de Palestine est un projet. Il faut que les gens le sachent. Si vous venez nous aider, votre soutien sera le bienvenu. Mais si vous venez pour dire « c'est notre marathon », ça n'est pas possible. Il s'appelle le marathon de Palestine et c'est le marathon de Palestine. Il appartient aux gens qui vivent ici et qui s'impliquent dans cette course. On ne peut pas dire « c'est mon marathon ».
Et au final, Étienne, qu'est-ce que ça change que l'organisation soit reprise par une autre structure ?
Eh bien, ce que souligne un diplomate, c'est que l'on revient à un modèle d'organisation, on va dire, un peu plus traditionnel en Palestine. Pour la course de vendredi, le comité olympique a demandé de l'argent à certaines représentations internationales, alors que Right to Movement avait trouvé un modèle économique qui permettait de sortir de la cistana. L'an passé, le marathon avait même été bénéficiaire, dit George Zeidan.
Il suffit de marcher dans les rues de la Palestine pour voir combien on est dépendant de l'aide des pays donateurs. Même les salaires du gouvernement sont payés et contrôlés par les donneurs. Ce projet a été un exemple magnifique de l'esprit entrepreneurial de la jeunesse palestinienne. C'est un événement organisé de façon professionnelle qui permet aux autres de toucher du doigt ce que nous, les Palestiniens, vivons sous l'occupation. Et en même temps, on a réussi à en faire un modèle économique qui nourrit le marché palestinien.
La cinquième édition de ce marathon illustre donc la difficulté d'émerger et de proposer d'autres modèles en Palestine en dehors des structures centralisées.
Le marathon de Palestine ou la récupération politique d'un succès sportif en direct de Jérusalem, le correspondant de France Inter, Étienne Monin.
Allez, pour finir, un anniversaire impossible à rater de la Floride au 20e arrondissement de Paris, Olivier.
Les responsables de l'entretien du cimetière du Père Lachaise sont à l'affût, Michael, car il n'y a qu'un seul lieu pour fêter dignement les 50 ans du premier album des Doors, la tombe de Jim Morrison. 50 ans jour pour jour aujourd'hui que l'album éponyme The Doors a poétisé la culture rock. 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Impossible d'écarter un seul titre de ce chef-d'œuvre absolu. Le choix a d'ailleurs été très difficile pour nous.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find.
Et j'imagine, Michael, que vous connaissez le chemin. To the next whiskey bar.
J'adore ce 29 mars 67. Olivier Poujade, merci.
France Inter, le 18-20, Michael Thébault.
Et à 18h51, nouveau rendez-vous, vous le savez, un mercredi sur deux, rendez-vous avec la campagne électorale allemande. On est à 6 mois des législatives et la bataille est lancée pour savoir qui d'Angela Merkel ou de son adversaire social-démocrate Martin Schulz deviendra chancelier. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
En direct de Berlin, alors le candidat du SPD a pris pour thème de campagne la justice sociale et apparemment ça marche. Et depuis plusieurs semaines, le débat politique se focalise sur cette question des inégalités, avec au cœur des discussions, Cyril, les fameuses réformes Schröder.
C'est une question qui taraude le SPD, oui, depuis 10 ans. Est-ce qu'il faut assumer le bilan de l'agenda 2010, cette série de réformes engagées par Gerhard Schröder, ou bien faut-il les remettre en question au nom du droit d'inventaire? Martin Schulz a choisi la deuxième option pour espérer devenir le premier chancelier social-démocrate depuis Schröder. Il fait son mea culpa et celui du parti.
Nous aussi, nous avons fait des erreurs. Il n'y a pas de honte à se tromper. L'important, c'est de reconnaître ces erreurs pour pouvoir les corriger. C'est ce que nous avons fait. Et c'est pourquoi nous encadrerons mieux le recours aux contrats précaires dans les entreprises si je deviens chancelier le 24 septembre.
Un peu moins de flexibilité donc pour les entreprises. Autre proposition, corriger les effets pervers de l'allocation chômage. C'est la loi Hartz IV qui cristallise à elle seule le mécontentement d'une partie des Allemands et de l'opposition de gauche. Le Hartz IV est accusé d'avoir aggravé la situation des plus pauvres ces 10 dernières années. Martin Schulz veut notamment allonger la durée d'indemnisation pour les chômeurs.
Et comment ces propositions de Martin Schulz sont-elles accueillies, Cyril ?
Ironie de l'histoire, c'est Angela Merkel et la CDU qui défendent aujourd'hui le bilan de leur ancien opposant. À entendre les conservateurs, les réformes Schröder ont permis d'assouplir le marché du travail, de relancer l'économie. Pas question donc de revenir en arrière. À gauche, en revanche, le discours de Martin Schulz est très bien accueilli. Le parti de gauche radicale Die Linke lui demande même d'aller plus loin et de ne pas se contenter d'aménagements cosmétiques. Sonia Giesel est porte-parole de Die Linke.
C'est bien, mais ça suffit pas. Il faut surtout arrêter de traiter les gens au chômage comme des gens paresseux ou qui n'ont pas envie de travailler. Il faut arrêter le Hartz IV régime, comme on dit, prolonger la durée de l'indemnisation, combiner ça avec des mesures de qualification pour les sans-emploi, les gens au chômage. Donc il faut un bouquet de mesures pour réintégrer tous ces gens-là au marché de travail.
Et le marché du travail, justement, il se porte plutôt bien, le taux de chômage est au plus bas, l'économie allemande est en plein boom. Et du coup, ce discours critique est-il vraiment audible ?
Eh bien, Martin Schulz, en tout cas, en fait le pari. Il estime que cette réussite de l'Allemagne, elle se fait au détriment de la justice sociale, au détriment d'une partie non négligeable de la population. Mais attention, le programme du SPD pour les législatives n'est pas encore arrêté. Il faudra attendre un congrès au mois de juin pour y voir plus clair. Pour l'instant, Martin Schulz ne fait que tâter le terrain, d'où la prudence de nombreux observateurs. Karl Bremke est économiste à l'Institut DIV, un organisme proche des sociodémocrates.
Nous sommes en campagne électorale, alors forcément les politiques veulent se faire apprécier, quitte à faire un peu de populisme. Le SPD a perdu beaucoup d'électeurs à cause des réformes Schröder, et il tente aujourd'hui de les regagner en promettant de revenir en partie sur ces réformes. Mais concernant l'indemnisation chômage, je vois un danger principal. Nous avons vu dans le passé que lorsque les indemnités sont données plus longtemps, les entreprises ont tendance à laisser de côté les demandeurs d'emploi les plus âgés. Et compte tenu de la situation démographique de l'Allemagne, c'est quelque chose que nous ne pouvons absolument plus nous permettre.
Au sein même du SPD, l'aile droite du parti cherche aussi à freiner les ardeurs du candidat Schulz, à le mettre en garde face au risque d'une campagne qui serait trop ancrée à gauche. Le scrutin régional qui vient d'avoir lieu dimanche dans la Sarre serait un signal d'alarme. Le SPD, malgré ses très bons sondages depuis 2 mois, a été sèchement battu par la CDU, le parti d'Angela Merkel.
Bon alors en bref Cyril, pour mieux faire comprendre les enjeux des élections en France et en Allemagne, 2 journaux ont décidé de faire alliance.
Oui, le quotidien Libération et son homologue allemand, en quelque sorte, la Tageszeitung, viennent de l'annoncer. L'objectif, notamment, eh bien, c'est d'enquêter en commun sur les sujets marquants des campagnes électorales des deux côtés du Rhin. Concrètement, la Tageszeitung publiera le 22 avril en allemand une partie des pages de Libé et Libération fera la même chose fin septembre avec des reportages et des analyses vues d'Allemagne.
Belle initiative. Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Merci.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
18h56, l'heure de l'édito d'Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde. Bonsoir.
Bonsoir Michael.
Et ce soir Arnaud, évidemment, on parle Brexit.
Ben oui, vous n'en pouvez plus, Brexit is Brexit. Theresa May a enclenché la sortie du Royaume-Uni de l'Europe aujourd'hui, dans deux ans. Bye bye les Anglais. Mais en réalité, c'est maintenant que le plus dur commence. D'habitude, quand on fait une négociation, on part d'un système qui ne marche pas pour aller vers un système qui marche mieux. Et ben, le Brexit, c'est l'inverse. On part d'un système qui fonctionne parfaitement, le marché intérieur, pour aller vers un système qui sera moins bon, la sortie des Anglais du marché intérieur, en espérant s'éloigner le moins possible du système qui prévalait avant. En clair, comme le dit Pascal Lamy, au lieu de casser des œufs pour faire une omelette, et ben là, on prend l'omelette pour refaire des œufs. Voici une recette anglaise qui s'annonce indigeste pour tout le monde et pour des années.
Bon, et concrètement, Arnaud, qu'est-ce qu'on attend de cette négociation?
Ben déjà, je peux vous citer trois décisions symboliques politiques majeures qui vont arriver. La première concerne le sort des 4 millions d'Européens qui vivent en Angleterre ou d'Anglais qui vivent sur le continent. Alors, on va devoir préserver leurs droits pour qu'ils continuent d'avoir droit au séjour, droit à la retraite, droit à la santé. C'est l'édito commun signé ce soir par Le Monde, Le Guardian, Gazeta Wyborcza et La Vanguardia. Alors, tout ça sera très difficile. On ne sait même pas quand est-ce que devrait s'appliquer cette règle. Tout de suite ou d'ici deux ans, on peut imaginez une ruée des retraités anglais ou la course des Polonais en Angleterre avant fermeture du marché du travail et de la libre circulation. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est le passeport européen qui permet à la City d'accéder ou non au continent et à l'euro. Eh bien, ce sera non, cela doit être non. Les Anglais ne peuvent pas nous envahir avec notre adversaire, la finance, et refuser d'accueillir les travailleurs européens. Troisième décision majeure, la note à régler. Michael, c'est comme lorsque vous vendez votre appartement qu'il faut faire un chèque et payer les dépenses de copropriété votées, mais pas encore réalisées. Montant de l'addition faramineux selon la Commission européenne, 60 milliards d'euros. On en rit encore, les Brexiteurs avaient fait campagne sur les milliards qu'ils avaient économisés pour financer le système de santé britannique. Les voilà obligés de passer à la caisse.
Et pour le marché unique, que va-t-il se passer?
Eh bien, bienvenue en absurdie, les Anglais vont sortir pour essayer de rester le plus possible dedans. Pascal Lamy nous a donné deux exemples. La pêche. La pêche, mais l'idéal serait d'éviter d'avoir coupé les zones maritimes en deux et d'avoir un espace européen commun. Mais pour cela, il faut définir des quotas de pêche pour préserver la ressource halieutique. Qui décidera de ces quotas? Ben, les Européens et pas les Anglais. Deuxième exemple, le transport de poids lourds. Un camion qui va de Londres à Rome, il devra passer la douane. Ensuite, il n'aura pas le droit de faire du cabotage à Paris, Lyon, Milan, chargé, déchargé. À moins de se mettre d'accord, comme c'est le cas en Europe, sur le temps de repos, le salaire minimal des chauffeurs. Qui en décide? L'Europe. On voit donc les Anglais, pour conserver leurs avantages économiques, vont devoir renoncer à chaque fois à plus de souveraineté. Ils seront comme des Suisses soumis aux Européens.
Et question finale, peut-on revenir en arrière?
Mais le débat n'est pas évident. Le texte de l'article 50 dit que la négociation se passera, je cite, « en tenant compte du cadre des relations futures avec l'Union ». Alors dans une seule phrase, trois incertitudes majeures. Le cadre, c'est quoi? Tenir compte d'eux, qu'est-ce que ça veut dire? Le futur, c'est imprévisible. Nous voilà donc partis pour des négociations impossibles. Nous restons sur notre pari du lendemain du Brexit. Quand il faudra présenter l'addition finale, les Anglais changeront peut-être d'avis. Le Brexit n'aura pas lieu, Michael. Rendez-vous dans 10 ans.
Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde, merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne en une question. Assiste-t-on en direct à l'implosion du PS? Toutes vos questions, vos commentaires dès maintenant. 01 45 24 7000 et dans quelques secondes, le journal de 19h.